Midi 56, deuxième partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Et dans le sud aussi de la France, je crois qu'il fait très moche, en particulier vers Cannes. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle les cinéphiles et tous ceux qui ont participé à cette 69e édition qui s'ouvre aujourd'hui s'inquiètent. Non, le 69e Festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui dans un contexte d'inquiétude quant au financement du cinéma français. Depuis quelques semaines, court en effet le bruit du désengagement de Canal+, considéré comme le grand argentier du 7e art. Et ce n'est pas seulement que Canal+ réduit largement sa présence à Cannes, pas de grand journal sur la croisette, plus de patio où on recevait majestueusement les hôtes à l'arrière du palais des festivals, fini les fêtes dispensieuses, même si certains y voient un symbole, non. C'est aussi que l'actionnaire majoritaire de Canal+, Vincent Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi et du groupe Canal+, a averti fin avril qu'il n'excluait pas la fermeture de la chaîne. Ce repli est très inquiétant et fait peser une grande incertitude sur le secteur. Voilà ce qu'a déclaré Pascal Rogard, le président de la SACD, tandis que d'autres tempèrent en disant que les gens du cinéma s'inquiètent depuis que le cinéma existe. Alors, faut-il s'alarmer ou pas? Le cinéma français peut-il se passer de la télévision? Parce qu'il y a Canal+, mais il y a aussi France Télévisions et la concurrence aujourd'hui du numérique. Nous avons, pour répondre à ces questions, invité René Bonnel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous vous présentez, René Bonnel, comme un économiste et un écrivain, mais on va donner quand même un certain nombre de fonctions que vous avez occupées et qui nous ont donné envie de vous inviter, vous. Aujourd'hui, vous avez dirigé le cinéma de Canal+, de 84 à 96. Vous avez fondé en 1990 le studio Canal+, où vous avez été d'ailleurs vice-président du studio Canal+. Vous avez ensuite présidé la FEMIS. Vous avez été conseiller du président de France Télévisions. Enfin, en janvier 2014, vous avez remis à la ministre de la Culture un rapport sur le financement de la production et de la distribution cinématographique à l'heure du numérique. Autant dire que vous avez toutes les casquettes requises pour pouvoir répondre à cette question du financement.
Mais pas de casquettes, non.
Toutes les questions du financement aujourd'hui du cinéma. Et pour dialoguer avec vous et vous interroger à nos côtés, comme c'est la tradition de cette dernière partie, nous avons proposé à Nathalie Sonnac de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Nathalie Sonnac est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas. Vous avez dirigé l'Institut français de presse dans cette même université. Vous êtes spécialiste de l'économie des médias, de la culture et du numérique et vous êtes depuis un peu plus d'un an membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'espère que ça ne vous donne pas un droit de réserve trop important malgré tout. Alors René Bonnel, a-t-on raison de s'inquiéter tout simplement de cette annonce du désengagement possible de Canal+?
Oui, je dirais qu'il faut rester vigilant. Je ne serai pas angoissé ni à ce degré inquiété, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui déstabilisent fortement Canal. Allons vite, je ne vais pas refaire du Bolloré. Donc une perte l'année dernière de l'ordre de 300 millions d'euros. Cette année, d'après ce que je sais, ce qu'on lit dans la presse, ça va continuer. Donc Canal+ est surtout victime...
Il laisse des plumes, oui.
Oui, il laisse des plumes, pardon. Et surtout victime d'une... j'ai fait un lapsus, effectivement, vous avez raison. Et surtout victime de la péremption de son modèle. Voilà, c'est que effectivement, lorsque nous l'avions créé il y a 30 ans, c'était nouveau. Payer pour la télévision, ça n'existait pas. Avoir des films au bout d'un an, c'était vraiment innovant, etc., etc. Plus le sport. Là, désormais, Canal+ est considérablement banalisé par rapport à la multiplication des offres concurrentes et surtout l'arrivée de ce qu'on appelle « over the top », c'est-à-dire tout ce qui est dirigé directement via Internet et qui se passe de tout passage par le satellite ou le câble ou le hertzien. D'autre part, Canal+, par rapport au service qu'il rend en ce moment, objectivement, est cher. Parce que les films qui sont vus peuvent être vus avant, en vidéo, et la consommation de ces films n'est pas énorme par les abonnés.
C'est-à-dire qu'il faut attendre 10 mois, je parle
oui,
sous votre contrôle,
10
mois avant qu'il ne passe sur la chaîne
énorme,
mais Canal.
Au moment où ça a été développé.
C'est 2-3 mois.
Voilà, maintenant vous avez la VOD, la télévision à la demande, la vidéo à la demande, et effectivement, pour 4-5 euros, vous pouvez avoir un film. Et pour 40 euros, c'est pas la peine d'un grand mathématicien pour vous dire que c'est l'équivalent de 8 films.
Mais René Bonnel, vous dites qu'il coûte cher Canal+, par rapport au service qu'il rend. Il faut quand même rappeler qu'en 2015, la France a produit 234 films, que chaque semaine 15 longs métrages sortent sur les écrans, qu'un seul film sur les 10 est rentable, mais que la plupart de ses œuvres ne voient le jour que grâce à la pluie de Canal+, qui a financé la moitié de la production.
Je réponds
de ses
à
films.
La première partie de votre
Donc,
question.
Donc il coûte cher, mais
est-ce qu'il y a des problèmes objectifs? Oui, il y en a. Et à ce rythme-là, je ne pense pas que Canal+ va disparaître, mais ça va lentement et sûrement s'enliser. Bon, ils perdent de 300 à 400 000 euros par an, d'abonnés par an, et effectivement investir de l'ordre de tout compris de l'ordre de 200 millions d'euros avec le studio, etc. Donc effectivement, si Canal+ est en grande difficulté, d'autant plus que ses investissements sont liés à son chiffre d'affaires de par la loi, et donc
tout le monde ne connaît pas le fonctionnement.
Bon, alors,
ils ont
vous explique,
des obligations.
Canal+ doit investir 12,5% de son chiffre d'affaires en œuvre européenne, dont 9,5% en œuvre d'expression originale française. Bon, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Et si son chiffre d'affaires se réduit, il est évident que ce sera moins d'argent qui sera mis sur la table. Canal+ préfinance environ, sur 230 films français, environ 130 films. Et c'est quand même
un
lourd handicap. Et les films parmi les plus importants, bien sûr. Alors, il y a un autre sujet, c'est que Canal+ connaît des difficultés dans son approvisionnement en sport, qui est aussi l'autre pilier de son développement, avec la concurrence que lui fait beIN Sport, qui est pas cher, et surtout ce que vient de lui faire le groupe numérique Altice en lui piquant la première ligue de football anglaise. Donc, si vous voulez, il y a des éléments qui convergent pour inquiéter l'avenir de Canal+.
Oui, et donc inquiéter l'avenir du financement du cinéma français.
Oui, mais alors attendez,
c'est ça, la
là si vous voulez, s'il y a une stratégie à déterminer par
pas
rapport
que,
à
si
ça,
je me permets. Hein, on va y venir.
Il n'y a pas que ça. Vous avez les chaînes généralistes, c'est vous avez également
France Télévisions.
Vous avez la vidéo, vous avez ce qu'on appelle le crédit d'impôt, vous avez et de plus en plus de gens qui investissent directement. Et surtout, naissent des géants mondiaux d'Internet qui, eux, pourraient un jour préfinancer les films. Mais malgré tout, c'est 30% du financement qui manquerait, ce qui serait quand même dramatique. Donc, et dernier sujet important, c'est que Canal+, et j'en ai été le premier opérateur, a gardé des réflexes de monopole, puisque c'est vrai que nous en étions en monopole, et qu'on est une vision, comme on dit, incontournable, et que les réactions qui ont été générées jusqu'ici ont plutôt été des réactions de réduction des coûts, c'est très bien, mais surtout, on ne voit pas encore se dessiner, et assez rapidement, le nouveau modèle.
C'est ça.
Alors, Monsieur Bolloré, je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais il dit qu'il va faire évoluer les choses. Moi, j'en prends acte, et je souhaite que ça se passe bien. Mais malgré tout, le temps joue contre lui. Le temps joue contre le modèle. Donc il faut se dépêcher à trouver un nouveau modèle commercial.
Nathalie Sonnac.
Moi, je partage vraiment l'analyse de René. Effectivement, on est dans une configuration de mutation numérique qui n'est pas nouvelle, hein, qui est déjà enclenchée depuis 10-15 ans. La question clé, me semble-t-il, est évidemment celle du financement de la création. Lorsqu'on parlait du cinéma, c'est évidemment un élément clé de contenu culturel, mais de façon plus générale, se pose la question des contenus, de tout ce qui est culturel dans son ensemble, c'est-à-dire le cinéma, mais aussi la musique. Et donc, dans cette transition à l'heure actuelle, on voit bien des nouveaux opérateurs arriver. On a à la fois un paysage audiovisuel français qui se reconstitue, qui se recompose. Alors, il y a eu plusieurs phases, on ne va pas refaire l'historique, mais néanmoins, on a l'arrivée des nouvelles chaînes de la TNT qui viennent financer directement, qui viennent concurrencer, et financer pour partie, mais concurrencer véritablement les opérateurs historiques, dont l'opérateur Canal. Ces chaînes-là n'évoluent absolument pas dans un univers fermé, et j'ose dire, et c'est un grand tant mieux. On est dans des univers qui sont totalement ouverts. Des opérateurs, notamment américains, mais aussi on a des grands groupes, hein, européens, comme Bertelsmann, qui vient aussi concurrencer et bousculer des opérateurs tels que Vivendi aujourd'hui et SFR Numéricable, le groupe Altice dans son ensemble aussi. Et puis on a évidemment des géants américains qui ont une capacité, une une puissance à la fois financière, ce qui Netflix a investi cette année, on évalue environ 6 milliards de dollars dans les contenus, donc c'est évidemment un point extrêmement important pour les opérateurs européens, et puis surtout, et ça c'est peut-être le régulateur qui parle, dans une asymétrie complète de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a une concurrence, la concurrence est bonne, et elle est bonne pour le contenu, elle est bonne pour que les gens se bousculent, et puis créent, c'est bon pour la création, un créateur est aussi là pour apporter des choses nouvelles. Donc lorsqu'on le bouscule, c'est plutôt très bien, c'est une bonne chose pour le téléspectateur. Il s'avère que là, caler des asymétries, qui sont des asymétries économiques, des asymétries, pourquoi économiques? Parce que tarifaires et fiscales notamment. Donc lorsque des nouveaux opérateurs tels que des OTT, on pense évidemment à Netflix, mais on peut penser aujourd'hui à Amazon Prime. Netflix s'est installé dans 190 pays aujourd'hui. Amazon Prime, c'est déjà 80 millions d'abonnés. Donc vous voyez bien que les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Donc se posent des questions de droit, de territorialité des droits. Et il est compliqué pour les opérateurs aujourd'hui français de se positionner, européens de se positionner aussi, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en capacité sur le territoire européen de réguler et de réguler une asymétrie fiscale importante.
René Bonnel.
Oui, je converge, puisque c'est un mot à la mode, avec ce que dit Nathalie Sonnac. Si vous voulez, pour sauver le soldat Canal+, si je puis dire, il faudrait quand même revoir de fond en comble le modèle. Alors, j'ai cru comprendre que Vincent Bolloré n'est pas d'accord avec ce que je raconte, mais c'est mon opinion et je la partage, comme dirait Monsieur Prudhomme. D'abord, il faudra revoir la politique des prix, parce que les prix, maintenant, les gens sont assaillis d'abonnements et que toute la stratégie, par exemple, d'Altice est de comprimer à l'intérieur du même prix des abonnements aux journaux, etc., etc., et évidemment de l'audiovisuel avec leur nouvelle plateforme VOD. Donc la bataille des prix va être importante pour une raison, comme on l'a vu pour le téléphone, parce que les gens, on est en période quand même de pouvoir d'achat en difficulté, et que les gens ont un budget abonnement et qu'ils dépasseront pas à l'intérieur de leur revenu ce budget. Donc ils feront des arbitrages de plus en plus sévères. Le deuxième, c'est que, et là, il faudrait revoir ce qu'on appelle la chronologie des médias. Canal+ s'est accroché l'année dernière dans un accord qui a un an avec la profession à sa chronologie à 10 mois.
C'est la chronologie des médias, c'est donc le temps.
Le temps, oui, je devrais être plus précis. Le temps de la séquence d'exploitation du film entre la salle, la vidéo, Canal+ et les chaînes généralistes. Canal+ est à 10 mois. Donc, on devrait laisser Canal+.
C'est le premier, Canal+.
Oui, c'est le premier, mais après la vidéo, qui est en train de se développer quand même, et qui lui prend des clients. Et d'autre part, parce que Canal+, devait avoir la possibilité de remonter, mais aussi, également de laisser remonter la vidéo par abonnement. Parce que le modèle Netflix, qui n'est plus pas régulé du tout, comme celui d'Amazon, puisqu'il vient de l'extérieur, lui a la vidéo par abonnement à des prix bas, et qui vous offre énormément de choix de films et de séries. En plus, il y a des logiciels qui permettent d'aller capter les films à l'extérieur, je fais court, donc ce qui fait que la régulation objective de la chronologie des médias est de moins en moins efficiente.
C'est compliqué pour Canal+ d'obtenir un raccourcissement de
ce délai. Non, c'est que Canal+ n'a jamais voulu de ce raccourcissement parce qu'ils estimaient que compte tenu de l'importance du financement qu'ils acceptaient de mettre à la disposition du cinéma, ce qui est normal, qu'ils restent dans une fenêtre qui était la leur, c'est-à-dire de 10 à 22 mois. Maintenant, ce modèle-là, la preuve est à portée que ce modèle-là ne retient pas les abonnés. Donc, il faut revoir ça, et je pense qu'une des solutions, c'est de revoir les délais de sortie des films, et que la vidéo à la demande, sur abonnement, c'est-à-dire contre une somme fixe tous les mois, vous avez une offre importante, remonte dans le temps et permette à Canal+, via Canal Play, qui est quand même de pouvoir exploser sur ce terrain-là. Donc, c'est ce modèle-là qu'il faudrait revoir.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Faut-il s'inquiéter pour le cinéma français? C'est la question que nous posons aujourd'hui, la question des relations entre la télévision et le cinéma français. Nous posons cette question à René Bonnel, qui a occupé un certain nombre de fonctions à la télévision et concernant le cinéma, en particulier à Canal+, mais aussi à France Télévisions. Et pour dialoguer avec René Bonnel, Nathalie Sonnac, qui est professeure à l'université Panthéon-Assas. Nathalie Sonnac.
Bien, je vais encore converger sur.
Il ne s'agit pas d'un débat.
Sur ces, points-là, mais que je partage véritablement, parce que la question qui se pose, c'est effectivement celle de la question du financement de la création, une fois encore, de contenu, mais de façon spécifique aujourd'hui du cinéma. Sur la chronologie des médias, il y avait un rapport qui a été réalisé il y a maintenant 3 ans, donc malheureusement, qui est posé sur des étagères, qui était le rapport Le Scur, qui apportait de nombreux éléments, de nombreuses avancées. On met beaucoup trop de temps, une fois encore. Le marché va beaucoup plus vite. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce qui est aussi inquiétant, pas plus inquiétant, mais néanmoins tout aussi inquiétant, c'est que derrière la question de la chronologie des médias, il y a effectivement la création de la vidéo, donc à la demande, donc de fenêtres de tir. La vidéo à la demande, c'est 4 mois. C'est ce qui est en train de se déployer de plus en plus. Donc, au bout de 4 mois, j'ai de la vidéo à l'acte. Et que celle, lorsque c'est par abonnement, donc la SVOD ou la VADA en français, n'arrive que 48 mois après. Ce qui pose derrière cette question le second souci que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la question du piratage. Parce que, véritablement, il y a une perte de valeur pour les ayants droit, qu'on ne souhaite pas annoncer de chiffres, alors que je ne veux pas vous dire 300 millions, 400 millions, 500 millions, c'est largement de cet ordre-là. Parce que le piratage se fait sur des contenus de cinéma, mais se font aussi sur des contenus de sport, qui sont tout de même les deux contenus principaux sur lesquels s'appuie le modèle de Canal+. Et ce qui est vrai aujourd'hui pour Canal se décline sur l'ensemble des autres chaînes, notamment SFR Altice, qui est en train de développer de nouvelles chaînes et d'offrir aux téléspectateurs de nouvelles chaînes de sport, eh bien va rencontrer ou rencontre la même difficulté. BeIN, en termes de sport, rencontre la même difficulté. Et on ne prend pas le taureau par la corne. C'est-à-dire que cette question du piratage est centrale. Elle est, et la chronologie des médias vient d'une certaine façon se bloquer et cristallise, et on comprend bien pourquoi, et je reviens pas, René Bonnel l'a très bien expliqué sur l'enjeu pour Canal+, mais clairement comme on n'a pas décidé de choisir, alors ça explose, parce que les téléspectateurs, les consommateurs, les utilisateurs, les internautes, eux vous posent pas la question, ils agissent, ils font, ils consomment, et ils en redemandent. Et c'est bien dommage qu'on passe à côté de ce point-là.
Nathalie Sonnac, juste une chose, parce que vous dites on comprend bien pourquoi, sauf quand on comprend pas, moi je suis beaucoup plus lente que vous, donc sur, puis vous connaissez très très bien vos dossiers l'un et l'autre, moi je suis moins, je croyais qu'on parlait en amont, c'est-à-dire du préachat, du financement de la production du cinéma français. Vous me parlez chronologie des médias, c'est-à-dire passage des films une fois qu'ils sont faits à la télévision. En quoi changer la chronologie des médias réglerait le problème du financement de la production du cinéma français?
Je répondais à la question, c'était est-ce que le modèle Canal+, est-ce que les difficultés qu'il rencontre ne met pas en péril le financement du cinéma? Je vous ai dit oui, en partie. Et que c'est le modèle Canal+, tel qu'il a très bien fonctionné pendant des années, qui lui-même doit être revu. Et pour lui permettre de s'aligner sur ce qu'offrent ses concurrents, c'est-à-dire, je ne vais pas les renommer, il y en a maintenant une demi-douzaine, qui eux se moquent complètement de la régulation française, et surtout pratiquent des prix bas, hein, et que les jeunes ne regardent plus la télévision, ils regardent des séries sur Internet et ils s'abonnent pour 10-12 euros à une foule de choses. Bon, donc, je répondais simplement à cette question, c'est que pour Canal+, il faudrait qu'ils revoient totalement sa stratégie, faire des propositions en VOD à l'acte, c'est-à-dire à bout de 4 mois, et qu'au bout de 6-8 mois, ils puissent offrir la même chose qu'offrent ses concurrents. Ça veut dire que c'est une révolution, que ça veut dire que la VOD à la demande et par abonnement va jouer un rôle capital dans le financement, va se substituer progressivement à Canal+.
Ça veut dire quand même que le cinéma français ne peut pas se passer de Canal+, et que
c'est à Canal+ de s'adapter. Ne peut pas se passer de Canal+ ou d'un nouveau modèle de Canal+. Voilà.
donc quand même de Canal+.
Oui, si vous voulez. Mais,
enfin, de la télévision, moi, parce qu'il y a Canal+, il y a France Télévisions. Y a...
De la télévision à la papa, c'est en ce sens, j'imagine, que René dit les choses. Parce que un tout petit point de précision, on parle beaucoup de Canal+, et c'est bien normal, qui joue un rôle essentiel. Et,
moins de 200 millions d'euros.
Mais 200 millions d'euros pour financer la moitié de la production française.
Alors, mais néanmoins, en disant ça, vous omettez que quand vous avez 300 films qui sont en 2015, en tout cas, chiffre CNC.
Deux tiers des 300 films produits en 2015 ont reçu de l'argent des chaînes selon ce rapport du CNC.
Donc 150 films ont été effectivement soit coproduits, soit préachetés par une ou plusieurs chaînes de Canal+. Donc on va dire que 51% des films, c'est du groupe Canal. Mais derrière, on a aussi les autres chaînes, et notamment les chaînes en clair, qui investissent 160 millions d'euros. Donc le groupe Canal+ joue bien entendu un rôle central. C'est lui qui, dans l'ensemble des chaînes thématiques payantes, joue 90% du financement du cinéma. Et c'est en ce sens que son rôle est évidemment central. Mais n'oublions pas, une fois encore, que le cinéma est un contenu parmi d'autres. Dans la coup de grille de Canal+, sur les 1,3 milliard d'euros, 50% c'est sur le sport. Et donc, c'est-à-dire que l'ensemble des contenus sont aujourd'hui touchés par les modèles de financement.
Oui, mais là, on parle du cinéma.
Oui, mais sur le modèle de financement de la télévision en général, et pour signifier qu'effectivement, si Canal+, aujourd'hui, a des difficultés et il faut repenser son modèle, c'est vrai aussi pour l'ensemble des modèles économiques des autres chaînes de télévision, dont Canal+, qui sont complètement impactés par l'arrivée du numérique et qui changent intrinsèquement les modalités de consommation, mais aussi de production et de diffusion de ces contenus. C'est en ce sens qu'il faut s'interroger. C'est-à-dire que les nouveaux intermédiaires transforment intrinsèquement la chaîne de valeur de la télévision, comme celle de la chaîne de valeur d'autres
acteurs
et opérateurs.
Mais si je vous pose cette question, René Bonnel, de façon un peu provocatrice, c'est que on peut se dire aussi que au lieu de changer en amont le modèle, le système de Canal+ aujourd'hui ou d'autres chaînes qui doivent s'adapter à la révolution numérique, on pourrait aussi imaginer que le cinéma lui-même, c'est un peu l'objet d'ailleurs du rapport que vous avez fait en 2014.
Bah, c'est pas moi qui voudrais le contraire.
Mais
je répondais à la question de Canal+. Alors,
la question Canal+ était posé dans le but de répondre à la question du financement du cinéma.
Je l'ai écrit, je le dis régulièrement, donc je peux vous faire une synthèse. Si vous voulez contribuer à régler les questions de financement du cinéma, il faut faire quatre choses. D'abord, faire très attention au coût des films. Ça, j'ai fait 1000 propositions là-dessus. Faut pas recommencer. Deuxièmement, revoir le modèle Canal+, parce qu'on a besoin de Canal+ pour financer 130 films par an, parce qu'on appelle cinéma français, il y a beaucoup de films qui sont étrangers, enfin bon, bref. Donc, 130 films par an, c'est important, et parmi les plus chers, donc c'est capital. Bon, et il y a personne, puis moi en tant que je fais pas de complexe de paternité, mais enfin, ça me fait, j'ai pas envie de la voir mourir, cette chaîne. Bon, donc, si vous voulez...
Et de deux.
Trois, il faudra que le cinéma français, et ça, c'est une affectueuse recommandation que je ferai, c'est que le cinéma français doit sortir de son système obligation, préachat, machin, et qu'il soit suffisamment dynamique pour pouvoir faire, comme certains de ses collègues, aller chercher des capitaux à l'extérieur, ça c'est un nouveau mode de financement, pour pouvoir investir dans des contenus, et la fréquentation s'est jamais aussi bien portée qu'en ce moment, on est à 220 millions d'entrées, en moyenne, en tendance annuelle en 2016, donc si vous voulez, il faut faire appel à cela, à l'extérieur.
Mais c'est où l'extérieur? C'est quoi l'extérieur?
Ça veut dire qu'actuellement se constituent des fonds d'investissement bancaires, qui sont prêts à investir en production. Il faut... Et j'ai dit quatre sujets.
Ah, oui,
alors je m'en manque un.
On ne perd pas le fil.
Et le quatrième point, c'est que tout le système d'intervention publique qui, quand même, globalement, cinéma et télé investit quand même 700 millions d'euros dans la machine. Pour le cinéma, autour de 300-350, ce qui n'est pas rien. S'adapte, comme le fait très justement Frédéric Bredin depuis 2-3 ans. La présidente du CNC, et qui a bien compris un certain nombre de problèmes. Donc, s'adapte et ses interventions soient plus structurantes. Structurantes, ça veut dire qu'au lieu de distribuer des subventions comme ça un peu partout, qu'elles soumettent ces subventions à des exigences de regroupement, à des exigences d'harmonisation des pratiques, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a un tissu, par exemple, de producteurs de cinéma de taille moyenne, solide, bien financé, et non pas ces sociétés qui certes sont imaginatives et créatrices, mais qui ont du mal à survivre. Donc, il faut que les interventions publiques permettent au tissu de se restructurer un peu pour être plus solide face aux diffuseurs qui se concentrent. Voilà.
Nathalie Sonnac.
Oui, je pense que la régulation, derrière certainement les mots de René Bonnel, il y a évidemment la question d'une révision complète de la réglementation dans son ensemble. Il ne faut pas perdre l'objectif. L'objectif, c'est à la fois de ces quotas de production, de ces quotas de diffusion, d'obligations d'investissement dans la production.
Sur lequel il ne faut pas revenir.
Cinéma. Il faut surtout, là-dessus, il faut s'entendre sur ces objectifs, en tout cas qu'on partage, de diversité culturelle et de promotion des œuvres. Après, une fois qu'on a des objectifs, il faut bien comprendre quels sont les moyens que l'on met en œuvre pour les atteindre. Aujourd'hui, la réglementation n'est malheureusement, on peut le dire ainsi, pas adaptée.
Elle est obsolète.
Elle a été créée en 1986, en tout cas c'est la loi 86 sur laquelle on s'appuie, revisitée, mais néanmoins certainement pas suffisamment. Canal+ n'est plus dans une position aujourd'hui de monopole, nous ne sommes plus dans un système fermé, et nous ne sommes plus non plus dans une économie, où quand je dis monopole, c'est notamment sur les chaînes cryptées, et nous ne sommes plus dans une économie à 4 chaînes ou à 6 chaînes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 25 chaînes accessibles gratuitement en HD.
Si Canal+ se retire, ça fait de la place aux autres.
Mais c'est pas ainsi que ça fonctionne, parce que c'est tout un système, c'est toute une économie, voire un écosystème. Donc,
il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à faire un chèque de 200 millions d'euros quand même.
Et puis la participation des chaînes de télévision dans leur ensemble, et Canal+ en particulier, participe à ce financement et donc à la promotion des œuvres et donc aussi au financement donc de ce que peut être la culture européenne. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit s'entendre, et ça ne doit pas simplement se faire, ça ne peut plus se faire au niveau national, ça ne peut se faire qu'au niveau de l'Europe. Et d'ailleurs, le CSA, avec la création par Olivier Schramek, son président de l'ERGA, l'a bien compris. C'est-à-dire le club des régulateurs audiovisuels européens, où on se réunit très régulièrement autour d'une table pour justement pour prendre en considération l'ensemble de ces modalités nouvelles, de ces nouveaux acteurs, et de voir comment on peut réagir. Est-ce que tout le monde s'entend pour considérer que tout acteur qui tire des revenus de l'exploitation des contenus de cinéma doit contribuer au financement du secteur. Voilà, c'est une règle assez simple à laquelle tout le monde doit s'entendre en Europe et non pas la moitié et non pas les trois quarts pour qu'on soit en capacité véritablement d'assurer un financement du cinéma qu'on considère comme l'un des meilleurs au monde. Il constitue notre patrimoine et il faut le protéger. Mais on ne peut pas uniquement se retourner vers un acteur, en l'occurrence ici Canal+, pour au fond lui faire porter l'ensemble des problématiques, lui faire porter l'ensemble des mutations. Les mutations sont, une fois encore, pardon de me répéter, mais touchent l'ensemble des étapes du processus de production et pas simplement en amont les ayants droit.
Est-ce qu'il fallait attendre, René Bonnel, que Vincent Bolloré prenne la tête du groupe Canal+, et devienne l'actionnaire majoritaire donc de Canal+, et ses déclarations il y a à peu près un mois, pour poser cette question, pour s'inquiéter, pour s'alarmer? Peut-être que ces débats vont avoir lieu sur la croisette, on va le voir dans les jours qui viennent, alors que vous-même donc faisiez, même si ça peut ouvrir un débat, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais alors que vous-même un certain nombre de dysfonctionnements, de façons de trouver une régulation à ce système ou un autre même système, il y a près de 3 ans quand même.
Eh oui, ma chère, puisque vous...
Est-ce que les choses ont été faites?
Cela dit, quand j'ai sorti, ce rapport a été rédigé par mes soins. Je me suis fait un peu insulter, etc., parce que ça contrevenait à certains intérêts. Et petit à petit...
Par qui vous êtes
insulté? Par des producteurs qui se sentaient menacés par les suggestions que je faisais sur le financement des films, etc. Donc, si vous voulez... Et puis, petit à petit... D'abord, les pouvoirs publics ont appliqué à peu près les 2/3 des recommandations sur les 50 propositions. Ils sont en train de continuer à le faire là sur beaucoup d'autres recommandations. Ils viennent de signer un accord sur la diffusion de ces films en salle qui va être signé à Cannes avec la ministre qui s'inspire assez largement de ce que j'ai écrit. Donc je ne désespère pas, mais si vous voulez, les réformes, ça peut se faire sur un coin de table en un quart d'heure, et après il faut les vendre, c'est tout l'art du politique. Donc si vous voulez, et c'est une question qui est très générale, qui dépasse le cinéma. Donc si vous voulez, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que le cinéma français, qui brille par ses compétences, par la qualité de ses professionnels, et je fais pas de numéro de violon, je le pense, mais devrait sortir un peu de son modèle, prendre un peu d'altitude, reconsidérer l'environnement et ne pas trop s'accrocher au mode traditionnel. Alors, mais concrètement, ça veut dire quoi? Faut-il des préachats fondés sur des obligations? Oui. Pour les chaînes. Sachant que Canal+ voit ses revenus diminuer, il faudra trouver des compensations quand même. Deux, faut-il avoir une dimension européenne parce qu'on peut être vertueux que dans seul pays, comme le dit Nathalie? Oui, et c'est un gros travail que doit faire le CSA et beaucoup de monde. Trois, est-ce qu'il faut s'efforcer d'un peu de restructurer les indépendants, les inciter à se restructurer face aux monstres qui se développent? Ma réponse est oui, parce que l'écologie du système exige un tissu d'innovateurs indépendants de taille moyenne qui puissent, qui soient pas toujours en train d'aller chercher des aides, mais qui soient assez solides pour financer leur développement et la création. Donc, il y a des mesures structurelles à prendre. Et sinon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la régulation se fera à l'extérieur.
Nathalie Sonnac parlait de l'importance des moyens pour à parvenir à des fins que vous vous mettez systématiquement. Est-ce que vous pourriez nous expliciter, René Bonnel, les moyens, on les comprend, mais quels sont les buts pour vous? Quel est le but pour vous? Est-ce que ça serait de préserver telle qu'elle est la production cinématographique avec la quantité de films par an et avec la diversité de ces films?
Absolument. Alors, j'ai assez travaillé dans le secteur depuis hélas longtemps pour vous dire que j'y suis très attaché et que j'ai pas fait que ces rapports. Je suis intervenu dans beaucoup de secteurs et on a souvent appliqué ce que suggérait. J'en suis très content. Donc, pour vous dire que très sincèrement, ma réponse est oui, il faut absolument conserver cette diversité, absolument conserver ce niveau de créativité. Y a-t-il trop de films dans les salles? Je dirais pas qu'il y a trop de films dans les salles, je dirais pudiquement il y a un excès d'offres. Et que,
d'accord.
Et que donc il faut trouver, je l'ai suggéré dans mon rapport, d'autres moyens de diffusion. Bon, maintenant, la question est entière. Est-il possible, avec ce qui se passe en ce moment, de garder le système tel qu'il est pour garantir sa diversité, ce niveau de création? Ma réponse est non, il faut le faire évoluer.
Voilà. Bon, on est parti avec vous de cette inquiétude. On aurait pu vous suivre jusqu'au bout, René Bonnel, en choisissant la musique de Vertigo, mais malgré tout, c'était vraiment trop angoissant. Mmh. Nous avons préféré, avec votre conseil, hein, celle du Mépris de Godard, on reste quand même dans le cinéma.
C'est l'affiche du film. Oui,
Nathalie Sonnac, on m'a entendu en plus, vous êtes obligée. Nathalie Sonnac, un mot.
Un mot sur
le positif. Vraiment un mot, hein,
mais
on est
un
à
tout
la
petit
fin.
Mot, en disant que simplement que le cinéma demeure un contenu incontournable pour les chaînes linéaires, les chaînes payantes, et que le numérique ne signifie pas une américanisation des contenus, mais véritablement une source d'opportunités pour le cinéma.
Bon, c'était bien, c'était un mot. Merci beaucoup. René Bonnel, en plus on reste dans l'ambiance de Cannes avec cette musique de Georges Delerue, du Mépris.
Absolument, oui. Ça me rappelle l'époque où quand j'étais à Canal, j'avais avec Gaumont produit Histoire du cinéma de Godard. Et j'adore Le Mépris, c'est un de mes films préférés. Et je trouve que le festival a une très bonne idée en faisant cette affiche.
Affiche, donc rappel Le Mépris de Godard. Merci beaucoup à vous, René Bonnel, et merci Nathalie Senac d'être venue au micro de La Grande Table aujourd'hui. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. Merci à Maïwenn Guizhou qui nous donne un coup de main pendant quelques jours d'ailleurs, puisque je prends de l'avance, où nous serons à Cannes à partir de lundi prochain, lundi, mardi, mercredi et pour la première partie de jeudi prochain. La réalisation aujourd'hui, c'était Philippe Baudouin et à la technique, c'était Jacques Hubert.